Mémoire vive,
présentée par Perrine Carvran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire et la culture du judaïsme. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'une femme de lettres, d'une jeune fille russe qui a fui la révolution bolchévique pour vivre en France, mais aussi d'une épouse et d'une mère morte assassinée à Auschwitz. C'est le Mémorial de la Shoah qui a choisi d'accueillir et d'enrichir l'exposition consacrée en 2008 à Irène Némirovski par le Museum of Jewish Heritage de New York, une exposition qui avait rencontré un très large succès et que le Musée d'art et d'histoire du judaïsme avait refusé d'accueillir en raison de l'antisémitisme supposé de nombre de textes d'Irène Némirovski. Pour en parler, nous recevons Olivier Philippona, qui est le commissaire de cette exposition et un excellent connaisseur du parcours de l'auteur de Suite française à laquelle il a consacré une biographie parue aux éditions Grasset. Avec lui, nous tâcherons de mieux comprendre l'itinéraire de cet intellectuel dont la vie suit les bouleversements du siècle. Pour commencer, Olivier Philippona, il y a dans cette exposition un objet qui clôt la visite, un objet à la symbolique très forte. Il s'agit de la valise du père d'Irène Némirovski, une valise de cuir brun patinée par les années, une valise qui a été confiée par le mari d'Irène Némirovski à ses filles avant qu'il soit déporté, 3 mois après sa femme. Une valise donc qui contenait ce qu'Irène Némirovski avait de plus précieux et sur laquelle les fillettes devaient veiller et ne jamais se séparer. Cette valise contenait donc entre autres le manuscrit de Suite française. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet objet et de son itinéraire ?
Alors, le manuscrit de Suite française qui est montré à l'exposition est le manuscrit sur lequel elle travaillait lorsqu'elle a été arrêtée par la police française le 13 juillet 1942. Et qui est un roman qu'elle n'a pas eu le temps d'achever, ce qui explique que ce soit le seul de ses romans qui se trouvait dans cette valise, puisqu'elle continuait à y travailler. C'est un roman qui a été publié à titre posthume en 2004, qui a reçu le prix Renaudot, qui a connu un succès universel ensuite, et qui met en scène l'exode de 1940 et ensuite l'occupation d'un village français de Bourgogne, qui est le village où elle s'était réfugiée avec son mari et ses filles. Et ce roman aurait dû comporter 5 parties. Elle n'a eu le temps d'en achever que deux. Et les 5 autres parties, les 3 autres parties auraient été, ce serait intitulé Captivité, les batailles et la paix. Et elle avait prévu que son roman, qui s'achèverait par la paix et par ce qu'elle appelait le triomphe de l'individu, se terminerait en 1945. Ce qui montre non seulement une lucidité sur les événements, mais une véritable prescience de l'issue de la guerre en juillet 1942.
Alors donc c'est finalement grâce à ses filles, grâce à cette valise et à ce manuscrit publié tardivement que finalement Irène Némirovski a vraiment acquis une grande célébrité, qu'elle a donc eu le Renaudot comme vous l'avez précisé. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement en quoi ce roman dur, amer, ironique et très mordant est finalement assez symbolique de ce qu'elle écrivait, de ce qu'elle représentait à l'époque ?
Alors oui, par exemple, il y a quelque chose qu'on a très très peu dit au sujet de Suite française, mais parce qu'on n'avait pas accès à son journal qu'elle a écrit sous l'occupation et qu'on a retrouvé finalement assez récemment. On s'aperçoit que le projet naît immédiatement après l'exode. Elle commence vraiment à travailler sur ce projet immédiatement après la promulgation du premier statut des Juifs, parce qu'elle sait qu'elle va avoir du temps pour écrire un chef-d'œuvre de cette ampleur à partir de ce moment-là. Et ce dont on s'aperçoit en lisant son journal, c'est que ce projet l'amuse énormément. Et que une des caractéristiques du style d'Irène Némirovski, c'est sa grande ironie, qui s'applique à tous ses personnages, quelle que soit leur origine sociale ou leur confession. Et cette ironie, dans Suite française, elle va faire des ravages, et elle s'applique quand même principalement à l'endroit de la bourgeoisie française, de la grande bourgeoisie parisienne et des milieux intellectuels. Il y a un personnage d'écrivain dans Suite française qui est extrêmement maltraité. C'est assez nouveau par contre dans l'œuvre d'Irène Némirovski, ça apparaît vraiment dans Suite française, oui, puisqu'elle s'est sentie abandonnée par le milieu littéraire. C'est la raison pour laquelle ce personnage est tant maltraité.
Oui, c'est ça, on voit finalement que ce roman est un véritable changement d'esprit de la part d'Irène Némirovski, en comparaison à ses romans précédents, puisque là effectivement il y a cette amertume et on sent cette colère face à un milieu intellectuel qui l'a proprement laissé tomber à ce moment-là, mis à part à l'exception de certains.
À l'exception de certains. Oui. Irène Némirovski a fait peut-être un mauvais choix sans le savoir. C'est-à-dire que, vous l'avez rappelé, elle est arrivée en France à la suite de la révolution bolchevique, fasciné par la France, parlant déjà français depuis très longtemps, animé par le désir d'être française, par la conviction d'être française, par le talent. Ça, c'est absolument évident. Mais elle restera une étrangère, une apatride jusqu'à son arrestation. Elle n'a jamais obtenu la nationalité française. Et cette amertume, elle retentit très tard dans son œuvre, effectivement, dans les notes marginales du manuscrit de Suite française, où elle comprend très tardivement qu'elle a effectivement été abandonnée par les milieux littéraires desquels elle s'était rapprochée, qui étaient la Revue des Deux Mondes, l'Académie française, qui étaient des milieux très conservateurs, mais qui, dans son esprit, représentaient l'esprit de la littérature française dans ce qu'elle avait de plus ancien, de plus institutionnel. Par exemple, elle ne fréquentait pas du tout les milieux de la NRF ou les milieux progressistes. Et c'est sans doute une erreur d'appréciation de sa part.
Alors donc, si on revient sur la vie d'Irène Némirovski, on comprend que son enfance, comme souvent, est le creuset de son œuvre. Alors vous avez divisé cette exposition en 4 chapitres. Le premier s'intitule donc « Russe ». Elle est donc née en Russie, à Kiev, en 1903, vous l'avez dit, d'un père banquier qui s'est construit tout seul, d'une mère volage et peu aimante, on le comprend bien dans l'exposition. Vous dites qu'elle a été élevée dans la vénération de la culture française, la hantise du ghetto et l'ignorance de la culture juive. Vous donnez là des clés, finalement, pour comprendre ce personnage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette enfance ?
Oui, bien sûr. C'est une enfance qu'elle considère comme malheureuse. Elle n'a pas été aimée par sa mère, ça c'est évident. Elle aimait beaucoup son père, qui l'aimait beaucoup en retour, mais elle l'a très peu vu, puisque c'était un homme d'affaires qui voyageait énormément, d'un bout à l'autre de la Russie et jusqu'aux États-Unis. Donc c'est une jeune fille qui est élevée seule, essentiellement par sa gouvernante, qui est une gouvernante française, ce qui explique cet amour de la musicalité de la langue française. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui lui naît très très tôt. Et sa mère est une femme très vaniteuse, vous l'avez rappelé, et qui se targue de n'être ni russe ni juive, ce qu'elle est, mais française dans l'acception la plus vaniteuse du terme. Donc c'est une femme qui s'habille à Paris, qui parle français, qui interdit qu'on parle yiddish à la maison. Le père d'Irène Mirovski savait le yiddish. Il lui chantait des chansons yiddish, ça on le sait. Mais le yiddish n'avait pas le droit de citer dans la maison de Mirovski à cause de sa mère, qui s'appelait Anna, de son prénom de naissance, mais qui se faisait appeler Jeanne ou Fanny à la française. Donc il y a un interdit qui pèse sur la culture juive dans la famille Niemirovski et qui explique son amourène, c'est trop fort, mais une forme d'attirance et de répulsion qui est présente dès son enfance. Alors elle a visité, effectivement, elle a vu très jeune le quartier du Podol à Kiev, qui était l'ancien ghetto juif sur le bord du Dniepr, également à Odessa. Également dans une petite ville de Crimée qui s'appelait Alushta. Et elle a été très très frappée de ce qu'elle a vu, de la pauvreté juive dans ces ghettos juifs de Russie du début du siècle. Et ça transparaît dès ses premiers textes, dans un texte comme L'Enfant Génial, par exemple. Et où on sent très très bien cette attirance très vive pour ce monde juif, et en même temps une espèce de peur, presque d'épouvante, presque fantastique pour un monde qu'elle ne connaît pas.
Et vous dites d'ailleurs, dans cette exposition, on apprend qu'elle a réchappé d'un pogrom. Donc oui. Ce qui pourrait expliquer aussi le fait qu'elle ait été élevée dans cette crainte et dans ce refoulement.
Ah oui, bien sûr, la peur du pogrom, enfin, c'était quelque chose qui était présent pour tous les juifs assumés ou non assumés en Russie méridionale, tout au moins au début du XXe siècle, bien entendu. Oui, elle était très jeune. C'était le pogrom de Kiev en 1905. Et on lui a raconté plus tard qu'on l'avait caché. À ce moment-là, c'est un destin qui attendra ses filles pendant l'occupation. Et c'est quelque chose qu'elle a restitué dans son œuvre en 1940, dans un roman qui s'appelle Les chiens et les loups, qui est son grand roman juif.
Alors donc, on apprend qu'elle assiste à la révolution russe, qu'elle se cache, qu'elle fuit avec sa famille en Finlande avant de s'installer en France en 1919. Quelles traces vont laisser cette fuite et l'installation du bolchevisme dans son œuvre ?
Je dirais principalement trois. Il y a d'abord un motif qui est très présent dans son œuvre, c'est la peur de la noyade. Sa gouvernante française, qu'elle adorait, qui était sa véritable mère de cœur, on peut dire, s'est noyée en 1917 volontairement à Saint-Pétersbourg. Ça paraît très romanesque, mais c'est véritable, dans les eaux de la Neva à Saint-Pétersbourg. Et ça, le thème de la noyade et du suicide est omniprésent dans son œuvre. La hantise, la peur du bolchevisme, il traverse aussi une partie de l'œuvre, ça c'est absolument évident. Et puis il y a aussi quand même la fascination pour l'événement historique qui a été la Révolution. La jeune adolescente qu'elle était a d'abord été enthousiasmée par la Révolution de février 17 et ensuite révoltée par ce qu'elle a vu en octobre à Saint-Pétersbourg. Mais elle avait conservé des souvenirs extrêmement vagues de la Révolution russe, Elle a toujours rêvé d'écrire quelque chose là-dessus. Elle n'a écrit que quelques nouvelles, assez fantomatiques d'ailleurs. Et lorsque l'invasion allemande a eu lieu en mai 40, elle a eu le sentiment d'assister à un événement historique de la même ampleur que la révolution russe. Et c'est ce qui lui a donné, entre autres, la volonté, le désir de rester en France à ce moment-là. Pour ausculter cet événement, pour écrire le livre dont elle savait qu'il serait son chef-d'œuvre. C'est elle qui emploie ce terme et qui serait Suite française.
Alors commence alors une vie légère, étourdissante, indépendante en France, où jeune étudiante, elle va aller de bal en casino, de boîte de jazz en ville d'eau. Donc on voit de nombreuses photos de cette folle vie. On la voit habillée, chapeautée, déguisée en gitane au bord de la mer, sur le perron de beaux hôtels. C'est une vie très légère qu'on retrouve aussi dans son œuvre. Elle épouse donc en 1926 Michel Epstein, qui est comme elle le fils d'un banquier russe en exil. Et elle fait paraître alors ses premiers livres, L'ennemi et le bal, où elle règle donc ses comptes avec sa mère.
Oui, oui, sous pseudonyme. Ses premiers livres sont parus sous le pseudonyme de Neret, N-E-R-E-Y, qui est l'anagramme d'Irène, et qui sont effectivement des règlements de comptes très théâtraux, puérils par certains côtés, ce qui peut s'expliquer, puisque c'est vraiment un règlement de comptes de fille à mère. Elle mettra très longtemps quand même à guérir de ce conflit, de ce complexe qui l'oppose à sa mère. Je crois que c'est précisément le mariage avec Michel Epstein qui l'a aidé à dépasser ce stade oedipien, si on peut dire.
Alors on voit aussi qu'elle reste fâchée avec cette mère très longtemps, puisque...
Même après sa mort.
Voilà, ça. Même après sa mort. Et ça, c'est très intéressant. Nous parler un peu de ça.
Oui, bien sûr. Irène Emeraude, qui a été arrêtée en juillet 1942, Michel Epstein en octobre 1942, tous deux déportés, tous deux assassinés à Auschwitz. Donc les filles ont vécu cachées jusqu'à la libération de Bordeaux. Je passe les tribulations, mais c'était un périple incroyable. Et donc après la libération, la gouvernante qui les avait cachées est allée voir la mère d'Irène Némirovski, qui habitait un magnifique appartement aujourd'hui avenue du président Kennedy à Paris, que j'ai visité, qui est toujours très beau. Fanny Némirovski, la mère, n'aurait pas ouvert la porte et aurait répondu « Je ne connais pas Irène Némirovski », qui était sa fille tout de même. Mais sa fille ne la voyait plus depuis des années. Depuis la mort de son père, ne la voyait pratiquement plus.
On voit dans l'exposition des choses assez drôles. Oui. Alors même si ça n'est bien sûr ce que vous racontez là n'a rien de drôle, mais où elle garde son humour et on voit qu'elle essaye de barboter, comme elle dit, des objets à sa mère pour essayer de récupérer un peu d'argent dans un moment où elle a tragiquement besoin d'argent, oui. Où sa mère ne veut rien lui prêter. Et elle envoie la nourrice des enfants récupérer des fourrures. Il y a tout un échange de courriers assez très, très drôle, très mordant.
Oui, mais c'est incroyable l'humour noir dont elle témoigne vis-à-vis d'elle-même dans ses courriers à son éditeur, mais jusqu'à deux jours avant son arrestation, où elle sait que ça va arriver. Elle s'y attend d'un jour à l'autre. Mais dans cette lettre, effectivement, un des nombreux amants de sa mère lui envoie une lettre en disant « Madame Némirovski, mère, s'étonne beaucoup d'avoir vu disparaître ses fourrures. Que s'est-il passé ?» Irène lui répond qu'effectivement... qu'elle en avait besoin pour réchauffer ses enfants, que malheureusement, en PS, elle a indiqué en bas de la lettre de réponse, malheureusement, je n'ai pas pu en tirer grand-chose car elles étaient toutes mitées. Ce qui est probablement faux, mais c'était une pique, une vacherie envoyée à l'endroit de sa mère. Sauf que, comme vous le dites, tout ça se passe en février ou mars 42. Irène Némirovski ne peut plus se déplacer à Paris. La législation anti-juive l'en empêche. Donc il y a quand même une couleur tragique dans cette lettre aussi.
Alors si on suit donc un peu le fil de la carrière d'Irène Némirovski, son premier très grand succès sera aussi donc l'année de la naissance de sa fille aînée, oui. Denise. Elle avait donc déposé un manuscrit chez Grasset sans laisser ni son nom ni son adresse. Oui. Elle reste introuvable puisqu'elle est jeune accouchée, au point que Grasset contacte la presse pour la retrouver. Alors c'est peut-être un coup de publicité.
Oui, je crois.
Voilà, vous pouvez nous parler un peu de ce roman, donc David Golder.
David Golder, bon, d'abord, commencez par dire que ça a été peut-être le plus gros coup de littérature du début des années 30, quoi. Et grâce notamment au lancement de Bernard Grasset, qui était un crack de la publicité à cette époque. Effectivement, la légende veut que quand Irène Némirovski, après avoir accouché de sa première fille, Denise, s'est présentée aux éditions Grasset, le livre était pratiquement publié et sortait de presse déjà. On n'avait pas attendu qu'elle se manifeste puisqu'elle l'avait envoyé en poste restante. Elle n'avait pas pu passer chercher la réponse. Les publicités étaient déjà parues dans les journaux. Ce roman a connu un succès considérable, a été immédiatement adapté au cinéma, au théâtre. pour tout un tas de raisons. La première, qui a vraiment saisi tous les critiques, de tous bords confondus, c'est que les critiques avaient du mal à imaginer que ce roman puisse être l'œuvre d'une femme. On a vraiment l'impression que c'est à mi-chemin entre une pièce d'Henri Bernstein et un roman de Paul Morand. C'est aussi pugnace, aussi rapide et aussi cruel, aussi cru aussi, et aussi cruel vis-à-vis de tous les personnages du livre. Alors il se trouve que tous les personnages du livre, ou presque, sont juifs et sont issus du milieu d'où vient Irène Némirovski, c'est-à-dire un milieu de financiers en exil, et qui vivaient entre eux sur la Côte d'Azur ou au Pays Basque, et qui évoluaient entre la fortune et les faillites, un thème qu'on connaît bien à la fin des années 20. Alors comme elle n'a aucune pitié pour aucun de ces personnages, et qu'elle a étudié ces personnages dans le milieu qu'elle connaissait le mieux, qui était un milieu juif, certains critiques, pas seulement dans la presse juive, en ont conclu que ce roman était antisémite, parce qu'il contenait aussi certains stéréotypes pour décrire les personnages, qui sont des stéréotypes qui paraissent issus de la littérature antisémite. Alors ce qu'il faut dire ici, c'est que c'est vrai qu'elle a utilisé ces moyens-là pour décrire ses personnages. Elle se les reprochait elle-même ensuite, en tout cas au moins pour David Golder. Et ce qui est certain, c'est que ces outils littéraires sont absolument pas, ne sont pas reliés, articulés à une pensée antisémite. Et du reste, la presse juive a interrogé Irène Némirovski, une journaliste de l'Univers israélite, est allée la voir à son domicile. Irène Némirovski s'est évidemment défendue d'être antisémite, lui a répondu ce qu'elle répugnait à faire, « Je suis juive, je ne le cache pas, et je suis trop fier de l'être pour le cacher ». Et la journaliste a conclu son article en disant « Irène Némirovski est aussi peu antisémite que juive », ce qui est une conclusion qui peut se valoir.
Oui, finalement, c'est peut-être une explication d'ailleurs, parce que vous dites vous-même dans l'introduction de cette exposition qu'il y a autour d'Irène Némirovski le rejet de ses hérédités et comme le désir de devenir française, un désir qui a pu l'aveugler. Donc c'est peut-être finalement rejet, cette forme de rejet dans sa façon de décrire un milieu qu'elle connaît d'autant mieux qu'elle y a vécu. C'est une sorte d'antisémitisme social peut-être à ce moment-là. Et puis qui est très dans l'époque en plus.
Je ne crois pas. Il y a un thème qu'on observe quand même dans toute son œuvre. C'est, comme je l'esquissais tout à l'heure, c'est la construction de l'individualité. Vraiment. On l'a jusque dans la dernière partie de Suite française, où c'est où on voit un flirt entre une jeune femme française et un soldat allemand. tous les deux, ils ne peuvent pas vivre leur amour parce qu'il est interdit par l'esprit communautaire des Français, des Allemands. Ça, c'est un cas particulier. Mais on observe chez Irène Némirovski ce désir de s'arracher à sa famille, de se construire comme individu hors de la communauté russe quand elle arrive en France. Elle la fréquente pendant un ou deux ans. Ensuite, elle se tourne vers des amis français. Et de se sortir aussi d'une définition juive d'elle-même. Et donc de se sortir de la communauté juive. Et finalement, je dirais que ce désir mimétique d'être française, d'appartenir à la communauté française, en 39, pendant la drôle de guerre, elle va donner écrire des dramatiques patriotiques pour la radio, par exemple. On sent vraiment ce désir de participer à l'âme française. Finalement, on peut dire que ça aurait été sa seule faiblesse. C'est une faiblesse qu'elle s'est reprochée très tardivement, en mars 42, au moment où elle s'en rend compte, où elle écrit dans ses brouillons, au sujet des Français, haine et mépris. Que me fait ce pays, puisqu'il me traite si cruellement, regardant-le froidement s'avilir, etc. Donc on peut dire qu'elle meurt en femme juive, mais en femme seule surtout, complètement seule, qui a perdu absolument tout appui de toute communauté, y compris de sa mère, de la communauté familiale.
Alors il y a malgré tout des choses qui aujourd'hui, alors que nous on connaît la fin de l'histoire, nous paraissent étranges et que vous pouvez peut-être nous expliquer. Donc ces éloges pour son travail des milieux d'extrême droite et vichysois, que ce soit Paul Morand ou Robert Brasillach. Et puis comment expliquer qu'Irène Némirovski est tant publiée dans les colonnes de Gringoire ou de Candide, même si elle est publiée dans beaucoup d'autres journaux. Est-ce que vous pouvez nous remettre un peu dans le contexte de la presse de l'époque, parce que ça peut paraître étrange aujourd'hui.
Bon, d'abord, vous citez Morand et Brasillach, mais vous pouvez citer tout un tas d'autres auteurs.
Oui, mais ceux-là, ils retiennent l'attention.
Ben voilà, mais ils retiennent l'attention parce qu'on veut bien, faire attention à eux. Mais d'abord, au sujet de Brasillach, il faut noter qu'effectivement, il a très bien accueilli l'œuvre d'Irène Némirovski, au début, en précisant toujours qu'elle était russe et israélite, Et puis en 1934, il y a février 34, ensuite il démolit le nouveau roman d'Irène Murski, il n'en reparlera plus jamais. Et je pense que ce n'est pas pour des raisons stylistiques, c'est parce que Brasillach avait viré au fascisme, tout simplement. Bon, maintenant, il ne faut pas s'intéresser seulement aux critiques d'extrême droite. Alors pour Gringoire, on peut dire deux ou trois choses. La première, c'est qu'elle a commencé à y publier en 33, une époque où c'était un journal, un hebdomadaire anti-bolchevique, anti-allemand, anti-nazi au départ. Et très, très patriotique. Elle y publie des nouvelles, des textes littéraires qui sont tout à fait détachés de l'actualité politique. Bon, à partir de 1936, Gringoire change de physionomie. 1935-1936, c'est l'arrivée d'Henri Béraud, l'éditorialiste. Il prend une physionomie, tout au moins dans ses pages politiques, qui est nettement antisémite. Et à partir de 1940, c'est ouvertement pétainiste et collabo. Et Irène Némirovski, effectivement, a continué à faire publier ses textes dans Gringoire jusqu'en 1942, sous un pseudonyme, dans un journal où, dans les mêmes pages de ce journal, on dénonçait des juifs. C'est ce qui paraît extraordinaire. Alors ce qu'il faut comprendre, d'abord avant 1940, je pense qu'il y avait chez elle une forme d'orgueil d'écrivain, qui consistait à dire « je publie ce que je veux, où je veux ». Pourquoi pas dans Gringoire, qui tire à 600 000 exemplaires, qui est un des premiers hebdomadaires de France, mais aussi dans Marianne, qui est un hebdomadaire de gauche, et David Golder, ce roman dont on a parlé, apparu en feuilleton dans Le Peuple, qui était l'organe de la CGT. Elle s'en fiche. La couleur politique des journaux où paraissent ses textes littéraires, elle s'en fiche. Et c'est un tort, probablement. Mais c'est une des explications. Et puis après 1940, il faut reconnaître que le directeur de Gringoire, Henri de Carbuccien, a été un des seuls, par fidélité, à continuer à la publier, à accepter de la publier sous pseudonyme. Quand des journaux qui avaient pignon sur rue, comme la Revue des Deux Mondes ou comme Candide, etc., lui avaient tourné le dos. Donc je pense qu'il faut retenir qu'en d'autre part, à partir de 1940, elle est la seule source de revenus de son foyer. Son mari a été radié de sa banque à quelques jours du statut des Juifs.
Donc pour finir, Olivier Philipponat, est-ce que vous pouvez nous brièvement raconter finalement comment cette femme donc apatride fait des demandes désespérées de naturalisation qui sont sans cesse rejetées, oui, avant finalement d'être arrêtée assez vite, elle puis son mari?
Elle a fait au moins trois demandes de naturalisation depuis 1930. La dernière a été relancée en 1939. Elle avait de bonnes chances d'aboutir. C'était juste avant la déclaration de guerre et tout a été fichu par terre. Et la plus dramatique est celle de la plus romanesque, la plus belle est celle de 1930. Dès 1930, elle était extrêmement célèbre. Je pense qu'elle aurait obtenu la naturalisation française. La démarche était en cours. Et c'est à ce moment-là que un très bon ami à elle, qui faisait partie du jury Goncourt, lui a promis le Goncourt. Et de ce fait, elle a d'elle-même interrompu sa demande de naturalisation pour ne pas paraître avoir obtenu, l'avoir demandé en vue d'obtenir le Goncourt. Ce qui fait qu'elle n'a eu ni le prix Goncourt, ni la nationalité française et qu'elle a été arrêtée comme juive étrangère. Ce qui comptait pour elle dans la naturalisation, ce n'était pas tellement d'ailleurs de se naturaliser elle-même, mais c'était d'offrir à sa fille, à l'époque elle n'en avait qu'une, un pays et des lois qui puissent la défendre. Et on sait ce qu'il en était devenu.
Alors des filles donc qui ont vécu cachées, qui ont finalement été celles qui ont pu comme ça transmettre l'héritage de leur mère. Merci encore Olivier Philipponat.
Merci.
Alors je rappelle donc que cette exposition très riche et très complète consacrée à Irène Némirovski dure jusqu'au 8 mars au mémorial de la Shoah. Et avant de conclure, je signale la venue exceptionnelle de Christopher Browning en France à l'invitation de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour une conférence au Collège de France le mercredi 20 octobre à 17h30 et au mémorial de la Shoah le jeudi 21 octobre à 19h. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Trois adresses pour nous retrouver et nous écouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site de la Fondation www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.